Et bonjour à tous, nous approchons, vous le savez, à grands pas de l'élection présidentielle de 2027 et aujourd'hui, pour cet été, nous allons nous concentrer sur la question européenne. Quelles questions se poser? Quels sont les enjeux? Quels points observer dans les programmes des candidats? Nous allons répondre tout de suite aux côtés de Guilain Bénessa. Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avocat, docteur en droit public, vous enseignez à l'université de Strasbourg, vous avez commis plein d'ouvrages, notamment le dernier, Nos vrais maîtres, histoire secrète des hommes qui vendent la France à l'UE, c'est aux excellentes éditions de l'Artilleur. Alors pour commencer, Guilain Bénessa, selon vous, quelle place la question européenne devrait prendre dans cette future élection présidentielle? Est-ce que c'est l'un des principaux leviers à actionner pour redonner à la France sa grandeur, pour paraphraser un président américain?
En fait, la question européenne, elle est centrale, mais elle n'est que, pour moi, elle est simplement l'avatar d'une question beaucoup plus large. C'est ce que désormais on pense la France de façon indépendante et autonome. Est-ce qu'elle existe encore? Est-ce qu'elle se tient debout? Ou est-ce qu'elle n'existe que par la tutelle fondamentale que toutes les institutions ont sur elle, en premier lieu l'Union européenne? Donc en fait, le problème, c'est qu'on a, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet, mais on a un ensemble de pseudo-candidats, de néo-candidats, de nouveaux candidats, enfin tout ce qu'on veut, parce qu'il y a une galerie de prétendants, et qu'en fait, en réalité, on a des atlantistes, d'un côté, les Raphaël Glucksmann et toute la clique, je dirais, ils sont très nombreux. On a aussi des atlantistes plus ou moins à droite, hein, qui s'appellent Michel Barnier, qui s'appellent ce que vous voulez, et qu'en fait, aucun ou presque…
– Michel Barnier n'est pas candidat.
Non, alors Michel Barnier n'est pas candidat, mais je vous rappelle qu'il voulait l'être il y a 5 ans. Il avait d'ailleurs eu une espèce de velléité. Lui, l'ex-commissaire européen à la question du Brexit, il avait eu des velléités, notamment quant à penser à un bouclier constitutionnel, à penser tout un tas de choses pour que la France se libère du carcan européen. Je veux dire, c'était, passez-moi l'expression, du foutage de gueule de la part de Michel Barnier, mais ça le plaçait dans un moment où il fallait être un petit peu souverainiste, hein, ça faisait bien dans le paysage. Et à mon avis, la question centrale de 2027, c'est que ce souverainisme-là, ou ce patriotisme-là, peu importe les mots, il existe un peu dans le lexique. Glucksmann lui-même parle de patriotisme dans son livre, en couverture, je crois. Donc on voit que la question est à la mode, mais qu'à mon avis, l'europhilie est tellement dans le sang même de ceux qui nous gouvernent depuis si longtemps, qu'aucun n'ose vraiment balancer le bébé avec l'eau du bain. Tout le monde est profondément européiste, et à mon avis, alors que la question est centrale, presque personne n'osera l'attaquer de front. C'est le jeu depuis longtemps, mais c'est de plus en plus problématique, voire suicidaire.
– On a le sentiment que cette question européenne retranscrit aussi cette fracture dans notre pays et que cette europhilie dont vous venez de parler est très propre à nos élites, avec de gros guillemets, alors que l'euroscepticisme a gagné les couches plus modestes de la population.
– Mais vous savez, la différence entre un Français et ses élites, hein, un Français au sens très large du terme, où qu'il vive ou à peu de choses près, c'est qu'il regarde le réel, il est obligé. Il paye ses impôts, il paye ses factures, il paye son URSSAF, il paye, pour ceux qui sont indépendants, c'est mon cas, il paye sa facture d'électricité, sa facture de gaz. Il comprend que la vie a des. Que le cheminement du monde actuel a des conséquences sur sa vie concrète tout le temps. Ne parlons pas de la question migratoire, je veux dire, à part trois enchanteurs de mauvaise qualité, personne n'imagine que la vie n'a pas changé et qu'il n'y a pas une question d'immigration qui se pose tous les jours. Et de l'autre côté, les élites, en fait. Franchement, le terme élite,
oui.
À défaut, on dira cela, on continuera, mais enfin, il faudrait un moment quand même s'atteler aussi à cette question lexicale.
L'oligarchie peut-être.
L'oligarchie, mais même ça, vous savez, il y a une question de respect. C'est-à-dire, quand on entend le mot élite, on s'imagine que c'est au-dessus. Il y a un rapport vertical tout de même. Quand on entend le terme oligarchie, même s'il charrie quand même ce qu'on n'aime pas, il y a tout de même aussi un sentiment qu'il y a une caste à part, avec une velléité à part, des intérêts à part et un intellect à part. Or, en réalité, on ne peut pas dire franchement que l'intelligence suinte à tous les étages, je veux dire tout en haut de soi-disant l'échiquier, que les gens s'en rendent compte largement et qu'en réalité, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les élites vivent dans un monde si déconnecté que eux n'ont aucun intérêt à ce que quoi que ce soit change, à la fois parce qu'ils ont appris la leçon depuis le départ, l'ENA, etc., j'en parle beaucoup dans mon livre, à la fois aussi parce qu'ils imaginent qu'on ne peut jamais changer de trajectoire, on est bien là où on est, et puis disons-le aussi, parce que les privilèges sont légion en haut, qu'il n'y en a plus en bas. Donc d'un côté, vous vous dites, je suis bien dans cette espèce de repère orthonormé qui s'appelle l'Union européenne, lorsque j'en profite, mais 80% de la population, honnêtement, à vue de nez, soit en souffre, soit constate que ça dysfonctionne, soit se pose des questions fondamentales en se disant, on m'avait prévu la paix, la prospérité, je veux dire, le bien-être universel, c'était un projet qu'ancien à l'Europe. Et aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Je disais, y rester sous cette forme, c'est suicidaire, Mais ceux qui tirent les manettes aujourd'hui ne rêvent franchement pas d'en sortir et d'ailleurs agitent le Brexit tous les jours pour histoire de nous dire qu'on n'a pas le droit d'en sortir, les résultats seraient trop mauvais.
Alors dans cet ouvrage que vous avez commis, justement le dernier, Nos vrais maîtres, l'avantage de ce livre, c'était qu'il y avait un motif d'espoir à la fin, puisque vous disiez que globalement, cette construction juridique, qu'était l'Europe, pouvait tout simplement être réécrite. Selon vous, quelles seraient les priorités dans les institutions à revoir ?
Alors, vous me prêtez un motif d'espoir, Élise, je vous en remercie, mais...
J'aime bien agiter l'espoir.
Non, c'est mon travers. Je suis plein d'espérance. Plus le temps passe, plus je suis plein d'espoir. Et d'ailleurs, souvent, je vous cache pas qu'on m'en fait un peu grief en disant « Toi, le trajet, que t'es devenu un peu béni, oui, oui. » C'est pas ça. C'est qu'en fait, j'imaginais, moi, juriste, un monticule, une espèce de montagne invraisemblable à abolir, à transgresser, à affronter, etc. Alors, elle est là, la montagne. L'Union européenne, les réseaux atlantistes, les réseaux mondialistes, 70 ans de... On va pas refaire le monde. Oui, il y a tout ça. Maintenant, la chose me paraît de plus en plus simple, en réalité. J'en parlais un petit peu avec vous la dernière fois que vous avez eu la gentillesse de m'inviter, c'est que les réseaux sentent... Quand je parle de réseaux, c'est vraiment les réseaux de pouvoir sentent que les Français n'y croient plus. Or, ces réseaux de pouvoir tiennent parce qu'il avait une légitimité. Parce que jusqu'à présent... Malgré Lisbonne, qui est une tâche absolue en 2007, la négation au référendum de 2005, ces réseaux pensaient quand même que la propagande avait suffisamment investi les consciences pour que ça ne change pas beaucoup. Or, je pense exactement l'inverse. D'une part, que ça commence à se voir tellement que ça suinte de partout, d'où les sondages. On sent quand même que la question européenne est au centre des inquiétudes, plus tellement de la confiance des Français à l'égard de la chose européenne, la construction européenne, de Jean Monnet à Macron. Mais aussi parce que je vous disais, motif d'espoir, si demain, 2027, peut-être, 2032 à mon avis, un peu plus, parce que 2027, je pense que le sabotage eu égard à la guerre en Ukraine, etc., est massif, mais bon, peu importe, je pense qu'il suffira au président élu de liquider en fait l'appareil administratif ou l'état profond, c'est-à-dire de remplacer tous ceux qui aujourd'hui usinent les petits rouages qui nous empêchent. Si le président élu décide de faire ça, un nettoyage de fond en comble, on peut repartir à l'endroit assez rapidement, parce qu'en réalité, le problème, c'est que tout ce qu'on envisage de faire, balancer par-dessus bord la jurisprudence des grandes cours, la Commission européenne, les normes des commissaires, les normes du Parlement européen, tout ce que vous voulez, si demain vous avez une armée à votre service, vous pouvez commencer à faire quelque chose. Le problème, c'est qu'on a une armée de comploteurs, ce qui a comme conséquence qu'un président élu demain ne pourra rien faire s'il ne vire pas absolument tout l'appareil, parce qu'en fait, il aura des couteaux dans le dos. Brutus fait le travail pour tuer César aussi vite que César sera assis sur le trône.
– Et selon vous, comment le président français, en 2032, si j'ai bien compris, pourrait réussir aussi à réformer non pas seulement l'appareil d'État français, mais aussi les institutions européennes? Parce que c'est deux choses différentes, on imagine qu'il n'aura pas prise sur tout l'appareil européen.
– Alors, si vous permettez, moi, président de la République, pour oser un aphorisme à la François Hollande, en fait, je pense qu'il faut penser, il faut voir ça en deux temps. Voir ça en deux temps. Et d'ailleurs, à mon sens, c'est une erreur que commettent certains souverainistes ou on va dire de la cause nationale. Je le dis tout de suite ici, je me fous de savoir si on est nationaliste, souverainiste, identitaire, etc. Tout ce qui est la France me va très bien. Je prends tout. J'ouvre tous les tiroirs, on embarque tout le monde ensemble. L'aventure est belle lorsque l'union fonctionne. Bref, je dis ça parce que, plan de temps, premièrement, le président de la République, au sens, son gouvernement, ont les leviers pour reprendre en main l'administration française. Là, soyons clairs, on peut revoir les agences de fond en comble. Là, on commence à se rendre compte, depuis quelque temps, du nettoyage des écuries d'OGS à faire, les agences qui servent à rien, le gavage absolu, les normes, l'implémentation de règles en fait, à tous les niveaux. On est en plein milieu du mois d'été, on a vécu la canicule récente. On a bien vu qu'on est capable d'avoir des agences qui nous pondent des mémos, des affiches et de la propagande sur comment boire de l'eau. On en est là. Donc, si déjà vous liquidez tout ce qui pompe une énergie et un fric de dingue à l'échelle de France, comme dirait Macron, ce fameux fric de dingue, ça veut dire que premièrement, vous commencez par ça. Deuxièmement, toujours en question française, vous poursuivez en remplaçant nos pseudo-élites, ou plutôt l'État profond, par des gens qui pensent que France. Je m'explique. On nous dit tous les jours qu'on ne peut rien faire parce que les juges nous empêchent. L'affaire Liana est un révélateur des dysfonctionnements de la justice, mais la justice, c'est pas juste des questions de personnes, c'est des questions structurelles. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous remplacez tout l'appareil de la Cour de cassation, du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, d'accord, Richard Ferrand, là encore, n'est que l'avatar de tous les gens qui se cachent derrière, demain, vous pouvez refaire une politique en France, avec des gens qui considèrent que la Constitution française, le peuple français et notre souveraineté veut plus que l'Europe. Je rappelle que juridiquement, ce que je dis est juste. C'est toujours supérieur à l'Europe. Sauf qu'on a implémenté dans les consciences, notamment des élites, qu'on n'avait plus le droit de penser comme ça. Donc, premièrement, vous mettez d'équerre la machine française, de fond en comble. Bon, je pense qu'il y aura quelques levées de bouclier, quelques frictions, et je pense qu'il y a intérêt à avoir un goûteur près de vous pour éviter, éviter que ça ne finisse mal. Vous voyez, restons polis, restons courtois. Et dans un deuxième temps, une fois que vous avez ça, vous n'allez pas à Bruxelles pour négocier des restes. Vous n'y allez pas parce que subsiste l'idée d'obtenir 10% d'autonomie sur un vague sujet. Vous y allez avec une armée en rang qui, sur chaque sujet, va rappeler les priorités, la primauté, la supériorité de la France sur l'Europe. Ça veut dire que l'idée, pour moi, n'est pas de réformer les institutions européennes. L'idée, c'est de démonter les institutions de l'intérieur, de les démonter, d'avoir une armée qui est là pour rappeler que la plupart des normes qu'on applique tous les jours n'ont aucune validité, que les jurisprudences de la Cour de justice de l'Union européenne sont prises par des gens qui n'auraient jamais dû être là, qu'un ensemble des choses que nous appliquons ont été faites de façon illégale. Je l'explique dans mon livre en noir sur blanc, en long et en long en large. Si on y va avec une mentalité de cette nature, on ne va pas se lancer dans des grandes procédures de 12 ans pour reprendre l'alinéa terre de l'article 137 bis, d'accord ? On n'y arrivera jamais. Il faut y aller en pensant que l'Europe, en fait, dans notre tête, n'existe plus telle qu'elle existe. Il faut se libérer complètement de la doxa, des implications, des obligations, etc., qui sont un tissu de conneries la plupart du temps, d'accord ? Il y a tout un tas de choses pratiques qu'on pourrait également penser. On n'a pas le temps de l'aborder aujourd'hui, mais il y a énormément de choses. Une fois que vous allez dans cette idée, vous faites exactement comme De Gaulle à l'époque de la chaise vide. Lorsqu'il a fait ça, De Gaulle, il n'en avait strictement rien à foutre des implications du traité de Rome. Il a juste dit « Demain, je ne viens plus, c'est terminé, on s'arrête là. Si ça continue, on divorce même. » C'est toute une histoire très longue, parce que je raconte dans mon bouquin que le Quai d'Orsay lui-même envisageait la question du Frexit en 1965-69. C'est une longue histoire. Si on y va avec cette énergie, cette envie de faire, tout deviendra possible. On fait juste exactement l'inverse depuis 70 ans, pour des privilèges, des petites places, une idéologie en place. Vous savez, lorsqu'on appartient au même monde qui sévit depuis 70 ans, pourquoi vouloir le changer ?
Bien sûr. On vous opposerait quand même qu'il y a eu quelques personnalités qui ont tenté d'en faire qu'à leur tête, j'allais dire, face à l'appareil européen. On pense bien sûr à Viktor Orban, même si tout n'a pas été réussi. On a bien vu qu'il avait reçu des mesures de rétorsion incroyables de la part de l'appareil d'État, de l'appareil européen, pardon, lapsus révélateur. Et à la finale, ils auront eu sa peau.
Alors, vous avez raison, mais il y a quand même une différence majeure.
C'est la Hongrie et c'est pas la France.
Alors, disons-le rapidement, mais également en longueur, Viktor Orban n'aura jamais, qu'il revienne ou qu'il ne revienne pas, peu importe, et les histoires hongroises sont du domaine de la Hongrie, et on pourrait dire la même chose en Pologne, en Moldavie, les questions sont longues, ou en Italie avec Mélanie pour d'autres motifs et d'une autre manière. Mais chaque pays l'aborde de la façon qui est la sienne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est là depuis le début. Le traité de Rome, c'est partiellement nous, c'est largement nous. Notre administration française ne trahit pas depuis quelques années. Elle trahit depuis 75 ans. D'accord ? Ce que j'indique dans mon bouquin, c'est que le premier jour dans le bureau de Jean Monnet, j'ai la preuve, je commence à me faire agresser par deux, trois juristes, pour moi, de pacotille, mais qui ont le bon ton d'être nommés dans les endroits qu'il faut et qui me disent « ton truc, c'est du complotisme ». Je dis « non, non ». Le premier jour, déjà, ils complotaient contre la France, les mêmes. Ça veut dire qu'ils sont là depuis 76 ans. 76 ans. Ça veut dire que quand nous entrons en conflit avec l'Europe ou notre administration, contrairement à Orban et à d'autres pays, ils n'ont pas quelques années à gérer. Ils n'ont pas une entrée tardive dans l'Union européenne. Ils n'ont pas, vous voyez, la conversion des années 2000 à gérer. Ils ont la conversion des années 2000 à gérer. Nous avons 75 ans de traîtrise à gérer. Le renversement est d'autant plus lourd. Mais surtout, dans le rapport que la France entretient avec l'Europe, vous savez, le cas d'école pour moi, je l'ai esquissé tout à l'heure, pour moi c'est vraiment le cas d'école, c'est que lorsque De Gaulle fait la chaise vide, j'ai découvert une note Alors, je le dis parce que j'ai eu quelques fans de François Asselineau qui m'expliquent que je pique des idées. Alors, je serais juste ravi de rappeler que non, c'est parce que cette note n'a jamais été publiée nulle part, et que je l'ai publiée. D'ailleurs, Florian Philippot et d'autres ont eu la gentillesse de me citer en disant, voilà, on a découvert un truc. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que cette découverte a ouvert mes yeux, vraiment, a changé mon regard sur le système européen. C'est que lorsque De Gaulle fait la chaise vide, qui aboutit à un compromis de Luxembourg, compromis qui, 3 mois avant, aurait été impossible si on écoutait les gens d'aujourd'hui. Vous voyez, parce qu'on n'a pas le droit, que c'est interdit, que c'est contraire aux normes. Enfin bref, c'est contraire à la primauté européenne. De Gaulle l'a fait. Mais en sourdine, le Quai d'Orsay lui adresse une note, dans laquelle il est indiqué noir sur blanc que le stratagème de De Gaulle n'est pas assez radical, parce que si la France veut s'en sortir, elle doit envisager, je cite, « une sortie des traités ». Ça veut dire que le ministère des Affaires étrangères dit au président de la République, Charles de Gaulle, c'est bien ton compromis, c'est bien ta tentative, mais en réalité, il n'y aura pas de salut sans sortie des traités, c'est-à-dire Frexit. Pourquoi je dis ça? Ça veut dire que, premièrement, si de Gaulle, on fait dire beaucoup de choses à de Gaulle, mais si de Gaulle, à mon avis, n'avait pas déjà géré tellement de choses en 12 ans, je pense qu'il aurait réfléchi à cette question encore plus clairement. Je pense qu'il n'a pas saisi tout à fait l'impact de plein de choses sur le droit européen, la primauté, la commission, c'était balbutiant. Et deuxièmement, ça veut dire que les patriotes que nous avions encore un petit peu dans les arcanes des ministères, de nos ministères, réfléchissaient encore dans un rapport de force et se demandaient quel serait l'avenir du pays. Imaginez une seule seconde aujourd'hui qu'un conseil juridique du ministère des Affaires étrangères ose écrire à Emmanuel Macron « Je te conseille de sortir de l'Union européenne, sinon il n'y a plus d'avenir pour nous ». C'est impensable dans le système actuel. Moi, je dis, il faut juste refaire une France où nous n'avons que ce genre de conseillers en sourdine, nous n'avons que ce genre de stratège avec nous, avec une armée comme ça. Imaginez ce que vous faites en quelques jours. C'est même délirant, tellement on n'envisage pas la chose possible.
Alors, des conseils comme ça, évidemment, dans les institutions françaises, il y en a peu. Pour autant, on a aussi…
– Ou pas.
– Ou pas du tout, peut-être. Oui. Il y en a peu ou pas du tout aussi dans les médias français.
Oui, alors oui, vous avez raison. Vous savez, peu ou pas, je vous trouve dur, Élise, vous me permettez, je vous trouve dur. Peu ou pas, alors, la doxa fait son trou, je suis d'accord, et peut-être que je me réjouis de trop, mais vous savez, comme sur tout un réseau de questions, la question migratoire, mais également la question même de l'environnement et d'autres questions énergétiques, etc., la question pétrolière fondamentale, la guerre énergétique de demain, je veux dire, on a globalement… Un son de cloche principal, d'accord, on va dire les médias mainstream, la plupart, on est d'accord. Mais en même temps, regardez récemment, on a appris, ce qui est on va dire en lien direct avec la stratégie d'Emmanuel Macron, on a appris récemment que le point de passage était passé, puisque pour la première fois, les Français de moins de 35 ans, je crois, s'informent davantage via les réseaux sociaux que via les journaux, les médias mainstream. Ce qui veut dire que consciemment, inconsciemment, il y a des gens qui se disent, à mon sens fort légitimement, on nous ment. On nous raconte quelque chose qui ne correspond pas. J'entends dire des choses, mais ce n'est pas ce que je vois. Mmh. Alors, on peut me dire qu'il y a de l'ignorance, on peut dire qu'il y a plein. Mais il y a de l'ignorance partout, je veux dire. Les gens ont besoin de s'informer différemment. Je pense que sur l'Europe, c'est pareil. Quand vous mettez dans la tête des bambins depuis 70 ans, un peu de choses près, que l'Europe, c'est la paix. D'accord, je ne sais pas si vous avez des enfants. Autour de moi, beaucoup de gens en ont. Je constate que leurs enfants l'apprennent à l'école, encore maintenant, et qu'ils voient que l'Europe, c'est la paix, c'est la prospérité, c'est la paix perpétuelle, etc. Et ces mêmes enfants sortent de là, vont à la gare du Nord, d'accord, voient l'état de la gare du Nord, vont, traversent la France, et voient une France périphérique. Alors pour le coup, propre, agréable, d'accord, il fait parfois encore bon vivre dans la France qui est la nôtre, retourne en métropole et voit la diversité, cette merveilleuse diversité s'installer, voit les problèmes de migration que nous avons, mais voit également le choc économique, la crise des classes moyennes qui crève les yeux, il n'y a pas besoin de l'envisager autrement. Et ils se disent quand même, alors, les indicateurs économiques à écouter la France d'Emmanuel Macron, c'est la France incite à faire. Et je veux dire, Emmanuel Macron se gargarise d'une France qui a repris le flambeau, de dire d'être de force de propulsion pour les investissements internationaux, d'accord ? Donc une France hors sol qui existe quelque part entre les statistiques de l'INSEE et le grenier de l'Élysée, d'accord ? Voilà cette France-là qui existe quelque part, et eux regardent ce qui se passe. C'est fort logiquement qu'ils vont vers les chaînes alternatives, qu'ils demandent à s'informer autrement, qu'ils se disent que finalement, l'ARCOM, c'est bien beau tout ça, mais mon Dieu, manifestement, il y a un problème. Et regardez le cas Charles-Henri Hella à l'oncle, récemment, avec l'audiovisuel public. Imaginez le français moyen, d'accord ? Moyen, dans ma bouche, n'a rien de péjoratif. Hein. Je suis un français moyen, d'accord ? Le français qui regarde ça et qui s'aperçoit du système de facturation dément et des privilèges de l'audiovisuel public. Ces gens veulent donc une autre information et ils veulent petit à petit qu'on fasse exploser ce système pour rendre l'argent aux Français. Sur le fond, je ne dis pas grand-chose d'autre sur l'Europe. La seule chose que je fais, c'est que je le documente, je le démontre, preuve à l'appui, pour essayer de trouver demain le cheminement d'une France qui se relève. Vous savez, si j'écrivais juste pour le plaisir d'écrire, je ne le ferais pas. C'est parce que précisément, j'ai l'ambition tout de même qu'il existe encore un chemin. On est quand même nombreux à le croire. Il faut écrire pour cela, essayer de dessiner des perspectives pour 2027 ou peut-être 2032.
Alors justement, il y a une forme de légende urbaine, entre guillemets, qui considère que Marine Le Pen, en 2017, s'est effondrée précisément parce que Florian Philippot prenait une ligne extrêmement dure sur la question européenne, puisqu'il prenait même le Frexit, la sortie de l'euro et d'autres institutions. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire avec ce que vous nous expliquez de cette défiance populaire qui grimpe de plus en plus vis-à-vis de l'Union européenne? Et comment on explique ce silence assourdissant, allais-je dire, des gens qui parlent du Frexit dans les médias du système?
Alors déjà, premièrement, est-ce que j'ai parlé de Frexit, personnellement? Pas vraiment. Je vous dis qu'il y a un appareil d'État liquidé et qu'ensuite, on pourra faire des choses, quelles qu'elles soient. Deuxièmement, sur le cas Marine Le Pen en 2017.
Si je peux me permettre, vous défendiez, vous ou non, le Frexit, on voit bien qu'il y a une critique puissante de l'Union européenne qui peut aller chez certains candidats jusqu'au Frexit, et on voit bien que le Frexit est une critique de l'Union européenne qui a peu le droit de citer dans les médias du système. Mais je précise mon propos.
Non, mais j'entends bien. Prenons, parce que le Frexit souffre de la campagne désormais anti-Brexit. D'accord ? Campagne anti-Brexit d'origine, campagne anti-Brexit d'aujourd'hui. Ça se poursuit. On nous dit, si les Anglais avaient su, dans le monde, si vous lisez Le Monde, ce que je fais de temps en temps, il m'arrive malheureusement de m'informer aussi, un peu comme tout le monde, hein, d'accord, sans mauvais jeu de mots. Si vous écoutez Le Monde, les Anglais, s'ils les avaient su, n'auraient pas quitté l'Union européenne. Les Britanniques ne seraient pas partis. C'est les catastrophes, les plaies d'Égypte se sont abattues, etc., etc. Bref, on nous promettait les plaies d'Égypte, elles ne sont pas arrivées et on nous les promet encore. Bref. Ça veut dire que le Brexit joue comme le dernier chiffon rouge ultime de « regardez, on a tenté le coup, enfin les Anglais ont tenté le coup, ils ont filé à l'anglaise, et finalement ça n'a donné aucun résultat, ou pas les résultats escomptés ». Or, ce que moi je défends, et je pense que le réel me donne de plus en plus raison, c'est que l'Angleterre n'a pas souffert du Brexit parce que le Brexit est une mauvaise option. L'Angleterre souffre parce que les élites ont décidé d'annuler le Brexit. Parce que depuis que le Brexit a eu lieu, tout a été fait pour rester sans dire dans l'Union européenne, tout en profitant des largesses de la sortie de l'Union. Au fond, vous savez quoi? Les Anglais sont restés des Anglais. De l'époque de De Gaulle, De Gaulle n'en voulait pas parce qu'il disait « Non mais attendez, on fait rentrer la Grande-Bretagne, ce sera le cheval de Troie des États-Unis dans l'Union européenne, enfin, dans la construction européenne. » Au fond, aujourd'hui, l'Angleterre a quitté, mais voudrait profiter un morceau en étant à moitié dedans, tout en étant totalement dehors. D'ailleurs, les travaillistes pro-retour dans l'Union ne le disent pas et disent « il y a trois chiffons rouges hein, », ils le disent souvent, « on ne veut pas du droit européen », donc en fait ils ne veulent pas de l'Europe, hein, d'accord ? Ils ne veulent pas la libre circulation, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas vraiment y retourner, et ils ne veulent pas de l'union douanière.
– Et ils n'avaient pas l'euro.
– Et ils n'avaient pas l'euro, et ils ne le voudront toujours pas. Donc en réalité, on est toujours dans ce détricotage d'une relation spécifique, Grande-Bretagne, Union européenne. Nous, dans le cas du Frexit, c'est différent, c'est fondamentalement différent. D'une part parce que, n'étant pas sorti, on est tributaire du cas anglais, je disais, qui fait mal, qui fait des dégâts en fait, auprès de la population et dans les médias qui s'en servent. Et deuxièmement parce que le cas de la France, c'est qu'elle ne quitte pas, ou elle ne quitterait pas l'Union européenne, elle l'a démontré. Parce que vu que la France est créatrice de l'Union européenne, que le couple franco-allemand est fondateur, qu'on le veuille ou non, que depuis le départ, le traître Jean Monnet, d'accord, j'arriverai jamais à l'appeler désormais autrement, d'accord, le traître Jean Monnet et tous ces petits sbires d'époque ayant tellement soigneusement mis en place, Robert Schuman et les autres, hein, mis en place cette espèce de lavage de cerveau, on ne s'imagine pas pouvoir sortir sans tout casser. Et moi, ce que je dis, c'est que, en fait, la question n'est pas de casser l'Union européenne, la question n'est pas de filer de l'Union européenne, la question n'est pas de rentrer dans une procédure de séparation qui va durer 20 ans. La question, c'est de considérer demain, parce que quand on fait le boulot, on comprend que depuis 50 ans, on nous enfume à partir d'une machine qui est depuis le départ illégale. Les décisions rendues par la Cour de justice dans les années 60, qui sont soi-disant fondatrices, elles sont illégales. Les compétences de la Commission européenne sur tout un tas de sujets, santé, économie, immigration, etc., sont illégales. Si vous voyez la machine comme ça, vous n'avez pas besoin de la quitter. Vous la faites imploser. Vous prenez votre distance vous-même, parce que seul votre pays compte. Arrêtons d'être servile. Vous n'allez pas à la table d'un homme qui rêve de vous mettre une balle dans la tête. Vous décidez vous-même de prendre l'arme pour lui tirer dessus. Je veux dire, la question est réglée de cette façon-là. Or, vu qu'on ne l'a jamais vu ainsi, depuis De Gaulle, et depuis cette note, cette fameuse note des années 60, on est rentré dans un discours servile, et vu que la France est le père spirituel de la construction européenne, avec quelques autres évidemment, on en est là, pieds et poings liés, à dépendre des élites ultra-pro-européennes, Macron et tous les autres d'ailleurs qui suivent, et on n'arrive pas à penser en dehors d'une matrice sans être, pour moi, caricatural, c'est-à-dire soit on gobe tout, soit on gobe rien. Je veux dire, à mon sens, il y a tout un travail à faire parce qu'on peut tout seul déjà largement faire le travail. Mais pour ça, il faut un commencement absolu, c'est le courage et c'est la sortie totale des repères orthodormés sous lesquels nous vivons depuis 1969, c'est-à-dire le départ du général de Gaulle.
– Toute dernière question Guilain Benassa, est-ce qu'il y aurait un critère sur lequel les Français devraient être particulièrement vigilants quand ils lisent les programmes des candidats en 2027, même si on a compris que vous n'aviez pas énormément d'espoir pour 2027, mais davantage pour 2032.
– Alors, si sur la question européenne, je présume.
– Bien sûr.
– Alors, moi, j'aurais plutôt une recommandation, à mon maigre niveau, mais parce que la recommandation vaut ce qu'elle vaut, c'est que ce que j'ai découvert, même moi, j'étais un peu sidéré de le voir aussi nettement, c'est que depuis 1950 à nos jours, l'Europe s'est exclusivement fondée sur le rêve fédéral. Il n'y a jamais eu de sortie possible. Premier discours de Jean Monnet, père de la construction européenne, lorsqu'il est à la tête de la Commission, premier discours, il dit « on pourra tout modifier, sauf deux éléments, la supranationalité et le fédéralisme ». Et en fait, depuis, le rêve fédéral est le seul rêve. Pourquoi je dis ça? Ça veut dire que lorsque les Français regardent le programme des candidats et qu'il est indiqué un truc du genre « on va réformer de l'intérieur l'Union européenne » ou « il faut mieux organiser l'Union européenne ». Ou, comme disait le Jacques Chirac à l'époque, Jacques Chirac disait « oui, il faut lutter pour une Europe mieux organisée ». Il osait dire ce genre de phrase un peu creuse. Dès que la promesse est lancée d'une petite touchette, d'une petite réformette, d'une petite révision de l'intérieur, de « on va un petit peu changer le système, on est plus fort ensemble, mais tout de même, il faut rester dedans », tout ça doit être revêtu d'un seul tampon, ça s'appelle le fédéralisme. Donc soit on décode le logiciel, on comprend que c'est le fédéralisme toujours plus, soit c'est la mort, vous savez, le vieux mot, liberta or muerte, la liberté ou la mort. Si on comprend ce décodeur fédéraliste en tête, on comprend vers quoi on va, que les candidats s'appellent Raphaël Glucksmann, François Bayrou, enfin, il ne sera jamais candidat, enfin, j'espère pas en tout cas, ou peut-être, hein, il est parti de Pau, il va peut-être revenir sur la dernière ligne droite, je ne pense pas, Édouard Philippe, etc., pour 2032, pour 2037, hein, c'est quand même le survivant de tout, enfin bref, quel que soit, Gabriel Attal, tous les autres, quelle que soit la façon de l'aborder, tous ces gens ne proposent des mots, des pansements, qui sont exclusivement des cache-sexes sur un seul terme fondamental, ça s'appelle le fédéralisme. Il faut que les Français le comprennent, le fédéralisme étant pour moi, évidemment, on l'aura compris, la mort programmée et le suicide programmé. Tout ce qui viendra en su de ça s'appelle autrement, mais en réalité, c'est le seul et maître mot de tout leur programme, le fédéralisme. J'entends simplement, moi, qu'on en revienne, vous savez, malheureusement, à la France, et la France dans un fédéralisme européen, c'est suicidaire pour elle et c'est suicidaire pour les Français.
Merci beaucoup, Guilain Benassa, d'être venu. Je rappelle à nos téléspectateurs, on peut retrouver sur la boutique de TVL votre dernier ouvrage, Nos vrais maîtres, histoire secrète des hommes qui vendent la France à l'UE. C'est aux éditions de l'Artilleur. À bientôt et bon été. –